Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Oui, bonjour, nous nous retrouvons dans notre émission « Ma commune est utile ». Autour de moi, donc, j'ai Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de France, et Brigitte Cabirol, qui est maire de Saint-Barthélemy de Bellegarde. Donc nous allons commencer cette émission par le grand sujet du jour, le grand débat. Donc j'ai sous les yeux la lettre de M. Macron qui dit « Les maires auront un rôle essentiel car ils sont vos élus et donc l'intermédiaire légitime de l'expression des citoyens ». Que penses-tu de cette phrase aujourd'hui? Comment il vous a traité depuis des années et aujourd'hui ils vous reconnaissent?
Eh bien d'abord bonjour à tous. C'est la troisième émission. C'est vraiment, on prend plaisir à pouvoir discuter avec les auditeurs de RLP. Et donc, le grand débat est lancé, c'est exact. Mais nous, depuis longtemps, on travaille. Alors que dire des effets de M. Macron? C'est vrai que depuis longtemps, on le sait, nous, que la France va pas bien. On le lui a dit. Et subitement, alors qu'il y avait un rejet total des classes intermédiaires et plus particulièrement des maires, voilà que notre président s'aperçoit que nous existons. Et à notre grande satisfaction, toute la population et aussi tous les élus se rendent bien compte que l'élu le plus auprès des concitoyens, c'est le maire. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, on a besoin de nous. Bien sûr, on va s'attacher à respecter cette démocratie. Et donc, comme je l'ai déjà dit, nous ne serons pas organisateurs de ces réunions de grand débat, mais bien sûr, nous allons être facilitateurs. Et d'ores et déjà, dans la continuité de notre dialogue, j'expliquerai un petit peu où on en est au niveau du département.
Brigitte, ton impression par rapport à cette lettre?
Que là, vraiment, on s'aperçoit que M. Macron a besoin des maires, que de toute façon, on est les plus proches des concitoyens. On peut dire que la liberté et l'égalité sont principalement du ressort de l'État, mais que la fraternité est l'affaire des maires. Donc on est là pour faire le lien social. Ça fait des mois que l'on dit que ça ne va pas. C'est pas nouveau, ça dépend pas de Macron, c'est plus profond que ça. Sauf qu'à un moment, il faut faire quelque chose. Alors je sais pas si le grand débat est la solution. Plus je m'avance et plus je les entends discourir et plus je me pose des questions et je me demande sur quoi ça va pouvoir aboutir. Il y a tellement de choses qui sont prises en compte, qui sont dites, mais seront-elles prises en compte? C'est là qu'est la question.
Donc le sentiment, c'est que vous êtes les représentants du peuple, c'est-à-dire que vous faites remonter les revendications légitimes de vos concitoyens. Mais parallèlement, dans le grand débat, M. Macron déclare « Je n'ai pas oublié que j'étais élu sur un projet, sur des grandes orientations auxquelles je demeure fidèle. Sur ces grandes orientations, ma détermination n'a pas changé. » C'est-à-dire que, d'après ce qu'il dit, il ne va pas changer dans sa politique.
C'est quand même curieux. Qu'il n'est pas changé, puisque déjà il est prêt à revenir sur les 80 km/h. Alors c'est peut-être que des symboles, parce que c'est pas ça qu'attendent les Français, et plus particulièrement les Français qui suivent les Gilets jaunes. Donc il commence à revenir sur certaines choses. Quand on a rencontré le Premier ministre avec Brigitte et Philippe Ducène, Édouard Philippe nous a bien dit que, comme je lui avais posé la question, que la loi NOTRe, il y aurait certainement un toilettage qui serait fait. Nous, bien sûr, on demande plus qu'un toilettage. Mais je pense qu'il est en train de se rendre compte et de prendre la température du pays. Et comme je le dis, aujourd'hui, le grand débat, bon, bien sûr que c'est intéressant de débattre. Mais attention, il faut que derrière, dès le mois, alors il l'a mis en place pour 3 mois. Mais je pense que d'ici le mois d'avril et le mois de mai, il faudra qu'il annonce des actes forts. Parce que les Français l'attendent. Les Français l'attendent au tournant, et si vraiment, si c'est pas suivi des faits, je pense que ça va redémarrer, ça redémarrera bien plus fort.
Oui. Moi, je pense qu'il a été élu, c'est un fait. Hein. De toute façon, on est démocrate, on est républicain avant tout. Sauf qu'il a été aussi élu pour faire obstacle à Marine Le Pen. Donc à un moment, il part avec la détermination, c'est OK, il faut en avoir. Sauf quand on s'aperçoit qu'on a fait des erreurs, il faut savoir, et c'est là toute l'intelligence, revenir en arrière et repasser sur certaines choses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi la taxe d'habitation. On pédale dans la choucroute royalement, on ne sait pas comment elle va être compensée. Qu'ils nous disent qu'il la remet, et puis à ce moment-là... On est prêt à la refondre. Enfin, bien sûr, elle a besoin d'être toilettée, mais est-ce qu'elle avait besoin d'être supprimée totalement pour être compensée par un impôt quelconque ? On ne sait toujours rien. Je veux dire, on avance à l'aveuglette quand même. Hein. Alors, c'est bien d'avoir de la détermination et quand il y a quelque chose qui est vraiment déterminé et pas de l'à peu près.
Donc, je continue toujours. Je vais faire l'avocat du diable. Quand il dit « nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises », et tout de suite après, il pose la question, faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ?
Mais le constat, c'est que les services publics, déjà, il le dit déjà dans ses propos, les services publics qui coûtent cher, j'en vois pas beaucoup, et par contre, ce que je constate, par contre, c'est qu'on regroupe et on mutualise tous ces services publics. Pour preuve, le dernier, c'est le service public du Trésor, quand il a supprimé la trésorerie de Saussignac. Aujourd'hui, on est regroupé avec Bergerac et puis certains établissements comme les EHPAD sont regroupés à Boulazac. Et on se rend bien compte, moi, à travers les propos que j'ai à travers le personnel, on se rend bien compte que ça ne va plus. Ça ne va plus. Et les maires, aujourd'hui, mais on est confronté à tout un tas de normes supplémentaires. Les agents sont tellement pressurés, les agents du fisc sont tellement pressurés qu'ils se bordent, ils se couvrent et donc demandent toujours plus à nos secrétaires. Et c'est ce que j'ai répondu à la trésorière, la trésorière de Bergerac. Je lui ai dit, madame, puisque c'est une femme, je lui ai dit, madame, arrêtez de pressurer comme ça les secrétaires de mairie, parce que bientôt, on va commencer à avoir des burn-out. Et c'est vrai que quelque part, quand on discute avec elle, elles sont vraiment... on se rend compte que ça va vraiment pas. Donc il n'y a pas que celui-là. Il y a les services publics de la Poste. Il y a les services publics, les gendarmeries. Il y a les services publics, alors bien sûr, beaucoup plus classiques comme... Alors, je vais en prendre deux grands services publics qui aujourd'hui sont inexistants dans le département. C'est d'abord Orange. Et puis le deuxième, c'est Enedis. Voilà deux services... qui aujourd'hui, quand vous allez à Périgueux, vous allez à Bergerac, il n'y a plus une boutique. Donc comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent et comment voulez-vous que les gens soient satisfaits ? Ils ne le sont pas.
Brigitte, sur les
services publics. Je rejoins tout à fait Alain. Enfin, ce matin, moi, j'étais en mairie. Il y a une dame et un monsieur qui sont venus pour faire des cartes d'identité. Donc on les a envoyés à Montpont, évidemment, parce que nous, on dépend de Montpont. Il faut attendre le mois d'avril pour avoir une carte d'identité. Mais dans quel pays on est, quoi ? Je veux dire, on n'a jamais été aussi mal servi par les services publics. Reste la mairie, qui est quand même de proximité, et les gens viennent nous voir en désespoir. Les cartes grises, c'est pareil. C'est presque nous qui les faisons, parce qu'ils n'arrivent plus, ils ne peuvent pas se connecter. On a l'Internet qui rame plus que jamais, on a de réelles difficultés. Alors on veut mettre la charrette avant les bœufs, on veut tout mettre par Internet, il faut tout faire en ligne, sauf qu'on a les réseaux qui ne vont pas. On a plein de Français, moins d'une dizaine de millions de Français qui ne savent pas et qui ne maîtrisent pas Internet et tout le reste. Et puis quand nous on veut le faire, on n'a pas les réseaux pour, ou alors on nous demande, je vous dis, une carte d'identité ce matin, pas de rendez-vous à Montpont avant avril. Alors on nous dit allez à Mussidan ou peut-être à Ribérac, qui vous prennent sans rendez-vous, mais on va faire que ça, aller se balader de porte à porte, et c'est pour tout pareil. Tu parlais des services publics, on a de la chance d'avoir une trésorerie à Montpont. Elle était ouverte assez souvent les après-midi ou le matin suivant les jours. Et ben maintenant elle est ouverte de matinée, donc au public, parce que comme ils n'ont plus de personnel, ils sont obligés de s'enfermer pour pouvoir travailler, parce que sinon ils n'y arrivent plus. On a notre trésorier qui s'en va au mois de septembre, on ne sait pas trop s'il va être remplacé ou pas. En tous les cas, moi, j'avais prédit il y a quelques années à la DGFiP, on avait dit vous finirez par plus nous mettre de percepteurs, de trésoriers dans nos... Ben, c'est ce qui va arriver. Quoi. On le sent venir gros comme un... ils vont tout regrouper ou sur Périgueux et ailleurs. Et nous, la proximité, ben, on n'aura plus rien. Donc, au détriment des communes, hein, parce que nous aussi, on est obligés, pour nos comptes et tout ça, on a affaire au trésor public. Et puis, je comprends aussi que le trésorier, de son côté, soit un peu angoissé par le personnel qui n'est pas... qui ne vient plus dans les trésoreries, qui n'est pas renouvelé quand il part en retraite et tout ça. Donc le service public, il est absent complètement.
Ah, Brigitte vient d'aborder la question des cartes d'identité. Tu pourrais peut-être faire un petit point sur la bataille qui a été menée par notre association sur les cartes d'identité l'année dernière et les petits points positifs qu'on a obtenus.
Ben, les petits points positifs, c'était d'abord d'avoir, parce que ça nous paraissait urgent dans les mairies, d'avoir... au moins pour la dématérialisation, d'avoir des points numériques. Tenu de l'État que nous ayons des aides sur les points numériques, c'est-à-dire les achats d'ordinateurs et puis la location de salles, ça a été à hauteur de 30% sur le montant des devis. C'est largement insuffisant, bien sûr. Et puis bon, ce qui est gênant aussi, c'est qu'il faut mettre quelqu'un derrière l'ordinateur, puisque... Ceux qui viennent chercher souvent des cartes d'identité, ce sont des étudiants ou des personnes âgées. Donc ça reste un problème. Maintenant, bon, les cartes d'identité, on avait demandé, et puis la mairie de Saint-Seurin-sur-Lisle, c'était vraiment accaparé le problème avec son maire. Donc moi, je les ai défendus de tout ce que je pouvais, enfin avec tous les pouvoirs que j'avais, mais ça n'a pas été suffisant. Et tu sais bien, Gérard, puisque toi, tu étais à l'origine de cette bagarre, tu sais bien qu'on n'a pas réussi à gagner. Et puis, voilà où on en est. C'est qu'aujourd'hui, ce que dit Brigitte est tout à fait la vérité.
Par rapport à ça, bon, j'ai vu dernièrement, donc, je pense que dans le cadre du service public, l'enquête d'utilité publique, qu'ils veulent a priori supprimer en 2020, qu'est-ce que vous en pensez le fait de supprimer ces enquêtes d'utilité publique.
Oui, mais là, bon, c'est pareil. J'espère que le débat aboutira. Parce que, bon, ce qu'il faut regarder dans nos cahiers de doléances, je voudrais qu'on revienne un peu sur les cahiers de doléances. Et c'est vrai que, quelque part, ce qui nous a étonnés, les mairies et les maires, c'est que, bon, bien sûr, il y a les deux premiers points étaient vraiment identiques avec les deux premiers points des Gilets jaunes, c'est-à-dire le pouvoir d'achat et puis la remise en cause de l'impôt sur la grande fortune. Mais ce qui nous a étonné dans les cahiers de doléances, c'est qu'en troisième position arrive l'organisation territoriale. Donc s'il y a quelque chose qu'il doit regarder aussi, M. Macron, c'est cette organisation territoriale. Et j'ai écouté le débat hier soir. Hier soir, il y avait un débat sur la 2, qui est sur la chaîne publique, qui était intéressant et puis qui a donné un petit peu le tempo de ce que va être ce grand débat. Et c'est vrai que quelque part, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de désordre, qu'on avait des journalistes qui ont eu du mal à mener le débat. Par contre, je pense qu'il y avait un peu trop de monde, mais c'est bon, c'est quand même normal d'avoir invité tous les représentants de la société. Mais je trouve franchement, et je suis persuadé que beaucoup penseront comme moi, et d'autres maires me l'ont dit, je pense que vraiment celle qui a vraiment posé le problème, c'est Madame le maire d'une commune de 4000 habitants qui a vraiment exposé le vrai problème des mairies et le vrai problème des Français.
Donc on va faire une petite pause musicale et on va reprendre dans 2 minutes.
Get there. dearest of all, darling. I know we've got to part. Baby, 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 baby. It really doesn't hurt me that bad. Yeah. Because you're taking me with you.
Nous allons continuer notre petit débat, dans le cadre de ce grand débat. À notre dernière émission, nous avions invité un gilet jaune. C'était au moment où l'association avait commencé à lancer les cahiers de doléances dans les mairies. Peux-tu nous faire un point sur ce qui s'est passé en Dordogne, puisque d'après ce que j'ai compris, ça a bien marché au niveau des mairies. Comme tu l'as dit tout à l'heure, un certain nombre de revendications, on en reparlera tout à l'heure, mais déjà, par rapport à ce qui s'est passé en Dordogne, peux-tu faire un point par rapport à ça ?
Alors je vais faire un point. D'abord, il ne faut pas confondre les cahiers de doléances que la MRF a mis en place, c'est une chose, mais il faut, avec le mouvement des Gilets jaunes. Moi, ce que je dis, grâce justement à ce mouvement des Gilets jaunes, les populations ont répondu très présent à nos cahiers de doléances. Donc c'est lié, mais les revendications sont, bien qu'elles soient souvent en copier-coller sur les principales, il y a quand même des revendications autres qui arrivent dans les mairies parce qu'il y a d'autres problèmes au niveau de la population, et particulièrement les commerçants qui de temps en temps, c'est vrai, quelque part sont lassés de voir d'être empêchés de pouvoir vendre leurs produits. D'autres n'ont pas la même approche, puisque moi j'ai discuté samedi sur la manifestation de Bergerac, discuté avec des commerçants qui nous ont dit non, au contraire, dans les centres-villes, il y avait quand même une certaine désertification le samedi, et le fait qu'il y ait une manifestation des Gilets jaunes, la manifestation dure une heure, et après ils vont faire les magasins. Donc il y a des côtés négatifs, mais aussi des côtés positifs. Alors en ce qui concerne, moi depuis le début, vous le savez, je demande à ce que les Gilets jaunes, je souhaitais que les Gilets jaunes se structurent. C'est en train d'arriver, heureusement, parce que on ne peut pas continuer à manifester sans pouvoir après se structurer et de bien clarifier les choses et les demandes. Donc ils se sont structurés au niveau départemental, ils font des réunions. Sur le Bergeracois, moi, j'ai, en tant que maire rural, j'ai prêté ma salle, comme j'avais dit, je faciliterai toutes les initiatives. Les Gilets jaunes sont venus me voir, ils font leur réunion des responsables à Bergerac. Et à ma grande surprise, la première qui a eu lieu mercredi, où j'étais invité, où j'ai pu prendre la parole pour essayer de temporiser et de dire que sur certaines revendications, on les soutenait, il y avait 70 personnes. Donc quand on me dit que les Gilets jaunes s'essoufflent, je pense que les médias, il ne faut pas toujours les suivre. Et je pense que, comme je l'avais dit, les Gilets jaunes, on ne les compte pas sur les manifestations autour des ronds-points, on les compte plutôt au nombre de Gilets jaunes qu'on voit derrière les pare-brises. Et je crois qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les médias veulent bien le dire. Et c'est vrai que quelque part, c'est pour ça que je persiste à dire que derrière le grand débat, il faudra qu'il y ait des actes, et particulièrement un, et c'est là que je me pose des questions, parce que hier soir, dans le débat qu'il y a eu justement sur Antenne 2, il n'en a pas trop été question, mais c'est que moi, je crois qu'à minima, il faut que M. Macron augmente le pouvoir d'achat d'un minimum de 20%. C'est parce qu'il a donné qui va régler les problèmes. Les Français ont faim. Enfin, beaucoup de Français ont faim. Beaucoup de Français ont d'énormes problèmes pour arriver à la fin du mois. Et c'est vrai que quelque part, ça a été dit hier, qu'il y a des Français, au bout de 15 jours, il n'y a plus rien dans le frigo. Donc ça, c'est quand même catastrophique. Et moi, je le vis dans ma commune. Brigitte doit le vivre dans sa commune. Tous les maires, on le vit dans nos communes. On connaît les cas sociaux. On connaît les gens qui ont des difficultés. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir maintenant qu'il y ait des résultats.
Hein, Brigitte, qu'est-ce que tu en penses? Puisque dans la lettre de Monsieur Macron, il ne parle pas de ces questions de pouvoir d'achat. Il a fixé le cadre points essentiels, mais la question du pouvoir d'achat, qui est la première revendication des Français, n'est pas abordée.
Non, tout à fait. Et il a cadré le débat, et c'est là où ça ne va pas. Parce que les Gilets jaunes, en majorité, ben, c'est la revalorisation du travail. C'est-à-dire pouvoir vivre de son travail. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui travaille ne puisse pas finir le mois. Je veux dire, il y a aussi des différences. Et là aussi, avec des personnes qui n'ont pas de moyens, qui ne travaillent pas, alors parce qu'ils n'ont pas de travail, mais la différence entre celui qui se lève le matin pour aller bosser et celui qui reste à la maison est tellement minime que ça n'incite pas non plus ceux qui bossent à aller travailler, quoi. Je veux dire, on a des familles à ressources, à composition de familles semblables, qui sont à 150 euros de différence. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se lever le matin, d'aller travailler à l'usine, de prendre du gasoil, c'est la question qu'on pose. Il faut revaloriser le travail. On doit travailler en France, mais il faut que ça paye. Voilà.
Et sur ce problème du pouvoir d'achat, moi, je voudrais rajouter une chose, parce que ça sort en même temps. Quand vous voyez que 26 familles dans le monde se partagent pratiquement 50% de l'argent, et ce qui est encore plus détonnant, je dis bien détonnant, c'est de voir que ces 26 familles, l'argent qu'ils ont leur apporte 2,5 milliards par jour de bénéfices. Et quand je vois derrière que le patron de Renault, ce matin, j'ai pu le lire dans la presse, quand je vois que le patron de Renault se permettait, avec les millions qu'il gagne d'euros par an, se permettait de vraiment... C'est plus de la triche, c'est du truandage, qui donnait un salaire de 700 000 euros à son épouse qui ne travaillait absolument pas dans l'entreprise, 700 000 euros par an. Vous imaginez bien que les gens, ça percute dans la tête des gens qui sont en difficulté. Donc quelque part, et ça, c'est vrai que hier soir, ça a manqué, ils avaient invité Mourad Boutjelal, le président de Toulon, qui est aussi un ancien patron, qui d'ailleurs a été très bon par rapport à ses propos de patron. Il a reconnu qu'il fallait savoir partager les bénéfices, mais il a aussi dit que pour les PME, c'était vraiment difficile aussi. Et ce qui a été regretté hier par tous, c'est qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas un représentant du 440. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait M. Pinault, qu'il y ait ces gens-là, ou alors le patron d'EDF, ou le patron de France Télécom. Ça aurait été intéressant d'avoir les avis de ces gens-là, parce qu'ils auraient été mis en difficulté.
Oui, là, tu abordes bien des questions avec tes 26 milliardaires qui restent plus, parce que l'année dernière, ils étaient quand même 48 à posséder 50% de la richesse mondiale. C'est quand même, ça veut dire qu'il y a de l'argent quelque part. Et quand on voit toute cette situation, on comprend qu'une des revendications des Gilets jaunes, c'est plus de justice fiscale.
Ben, bien sûr.
Et quand on voit, bon, comme tu viens de le citer, M. Gaulle, qui gagnent des millions et qui truandent de plus en plus. Donc les gens ne comprennent pas que nous, on soit taxés au maximum et qu'eux puissent...
Mais question qu'il faut se poser, est-ce que c'est le gouvernement qui gouverne ou est-ce que ce sont les grands entrepreneurs? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, il y a un moment que je le dis, il faut que vraiment les élus reprennent le pouvoir.
Donc dans ce cadre-là de justice, vous avez abordé... on doit aborder ces questions revendicatives, mais il y a aussi dans les revendications la question des je reviens sur la question des services publics, parce que plus on s'éloigne, plus ça pose des problèmes à ces familles qui ont déjà du mal à mettre la soupe après le 15 du mois et qui ne peuvent plus se déplacer, quoi. Donc je crois qu'il faut... Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brigitte ?
Oui, ils peuvent plus se déplacer, sauf qu'on arrive quand même à leur rendre des services. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont... maintenant, parmi les demandes qu'on a en mairie, c'est remplir le frigo et mettre du gasoil dans la voiture pour aller bosser. Oui. C'est quand même grave. Je veux dire, il y a des gens qui ont du travail qui n'arrivent plus à mettre d'essence dans leur voiture. Alors, on est tout content, l'essence est redescendue, mais elle est quand même... Moi, je roule au gasoil, hein, voilà, parce que ma voiture, elle a des filtres et tout ce qu'il faut. Hein, je pollue pas ou très peu, mais enfin, voilà. Maintenant, on me dit que je suis mauvaise, je veux bien le croire. Mais 1,38€ du litre, c'est pas une affaire, quoi. Je veux dire, ça coûte cher, et quand on a besoin de se déplacer pour aller bosser, c'est... Voilà. Les revendications sont celles-ci, c'est manger et mettre de l'essence, parce que sans essence, on peut rien faire. Et je voulais dire aussi qu'on n'a jamais eu autant de demandes de Resto du Cœur, des gens qui n'ont pas les minima, c'est-à-dire des gens qui normalement n'ouvrent pas droit au Resto du Cœur et qui viennent vous voir en disant « mais moi j'ai plus rien, il faut que vous interveniez ». Donc nous, maires, on a, bien sûr on est en lien avec les Restos du Cœur, on les sollicite et bien sûr ils dépannent. On arrive à dépanner avec Secours Populaire, Secours Catholique, on arrive toujours à trouver quelque chose, mais ça devient récurrent, c'était des choses qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Tu parlais tout à l'heure de justice. La justice, les gens disent aussi qu'il faut une justice sociale. Il faut la justice dans tous les sens. Il y a beaucoup d'inégalités. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est pas normal que la Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes ne puissent pas être pris en compte quelque part. Il faut que ça soit contraignant. Je veux dire, il y en a une Cour des comptes qui pose des questions, qui dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Elle pointe de nombreux problèmes et de nombreux gisements d'économie et d'amélioration, mais personne n'en tient compte. Alors, ça sert à quoi? C'est cela aussi que M. Macron devrait mettre en place. C'est-à-dire qu'à un moment, puisqu'on a des institutions qui existent, ben respecter ce qu'elles disent. Il y a des communes, il y a plein de choses qui ont les rapports de Cour des comptes négatifs et on continue la belle vie comme si de rien n'était. Donc c'est pas normal.
Dans ce cadre de faire des économies comme le propose la Cour des comptes, M. Macron propose de réformer un petit peu l'État et on le voit, sa proposition, c'est de fait de supprimer la commune au profit des EPCI. Qu'est-ce que tu en penses
Mais moi, je suis tout à fait contre, bien évidemment. Je l'ai dit dans plusieurs fois. Le PCI, c'est un outil, le PCI. C'est pas une institution, c'est un outil. Le PCI a été fait pour avoir des projets structurants pour les communes. Et la commune reste quand même l'ancrage de la démocratie. En 1789, ça a démarré par la commune. Donc je ne vois pas pourquoi on enlèverait la commune. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, on a, bien sûr qu'on en a besoin des EPCI, mais il faut avoir des EPCI qui aient des moyens aussi, parce que c'est pareil, c'est de plus en plus difficile pour eux. Et quand ils n'ont pas d'autres solutions, et quand l'État ne les aide pas, eh bien, ils sont comme les communes, ils sont obligés d'aller chercher l'argent par l'impôt. Et c'est pas populaire. Donc quelque part on retombe sur les mêmes problèmes. Par contre, ce qui est plus grave, c'est que, je vais prendre un exemple, c'est l'eau et l'assainissement. Le Sénat, qui est quand même le défenseur des collectivités locales, le Sénat a voté contre le fait de ne pas donner la compétence de l'eau et l'assainissement aux EPCI. L'État et l'Assemblée nationale, eux, l'ont voté. Le résultat, c'est aujourd'hui, les mairies vont être obligées de donner cette compétence aux EPCI. Et bien sûr, les services vont être tellement gros, alors qu'aujourd'hui, ça marche très bien avec des syndicats intercommunaux, les EPCI vont être obligés d'embaucher d'abord un technicien niveau ingénieur et puis bien sûr du personnel pour gérer. Donc quelque part, quand on dit que les collectivités territoriales embauchent, elles embauchent parce qu'on les oblige à embaucher. Elles ne peuvent pas faire autrement. Donc voilà le résultat de ce qui se passe en France. Beaucoup de Français ne le savent pas, mais il faut leur expliquer ça.
Donc nous allons clôturer pour aujourd'hui cette émission. Donc on se retrouve le mois prochain dans l'émission « Ma commune est utile ».
Tout à fait. Ce que je dois dire aux auditeurs, d'abord on est ravis avec Brigitte d'être présent depuis maintenant deux mois. On va étudier maintenant. Je vous promets que la prochaine étape, on vous fera rencontrer un maire. tout à fait neutre, et puis certainement d'autres personnages, parce que Brigitte et moi, on n'est pas, il n'est pas obligatoire qu'on soit toujours là, donc quelque part, il faut que vous écoutiez d'autres maires et que vous ayez d'autres visions de ce qu'est la commune et ce qu'est le département, donc voilà. C'est la proposition que je voulais faire et je vous promets que Gérard va mettre tout en œuvre pour vous amener dans ce contexte-là.
Je te remercie Alain, je te remercie Brigitte.
Merci.
Et puis au mois prochain.
À bientôt.
À bientôt.